Depuis une décennie, les attentats commis par l'extrême droite se multiplient, toujours plus meurtriers, que l'on pense à Utoya, à Christchurch, à El Paso et maintenant à Hanau. Même si le phénomène est mondial, l'Allemagne, où des bars à chicha ont été visés ce 19 février faisant 9 morts, est particulièrement ciblée, avec 3 attentats racistes et antisémites en 9 mois. Les auteurs de ces actes sont souvent inspirés par la xénophobie et Anders Breivik, auteur de la tuerie d'Utoya en Norvège en 2011, représente souvent un modèle. La France reste à ce jour plutôt épargné, mais plusieurs groupes violents d'ultra-droite y sont régulièrement démantelés. Invité de la deuxième heure, la politiste Nona Maier. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS. Vous travaillez depuis toujours sur les droites radicales, le racisme et l'antisémitisme, mais aussi la sociologie électorale. Première question, est-ce qu'on assiste, Nona Maier, à une montée de la xénophobie en Allemagne ou bien le phénomène n'est pas nouveau ?
Le phénomène n'est pas nouveau, mais disons qu'il s'accélère. Le phénomène n'est pas nouveau parce qu'on a oublié, mais dans les années 92-93, au moment de la réunification allemande, on a une vague de violence, et notamment d'attentats, d'agressions contre les Turcs avec des incendies dans les nouveaux Länder. On a oublié ça, mais l'année 1992, de mémoire, il y a eu à peu près 2500 agressions xénophobes en Allemagne. Donc ce n'est pas nouveau. Et puis ensuite, on a eu aussi cette bande qui tuait au pistolet des travailleurs turcs dans les années 2000-2006 qui s'appelaient NSU, c'est-à-dire des néo-nazis underground clandestins, dont le procès vient de se terminer. Il y avait une femme d'ailleurs parmi eux, ce qui est assez rare. Et ce qui a changé au fond ces dernières années, depuis 2015, depuis l'arrivée des réfugiés, depuis la montée d'une organisation anti-islam comme Pegida, ou les succès électoraux d'un parti comme AfD, qui pour la première fois dans l'histoire allemande rentre au Bundestag en 2017 avec plus de 90 députés, on peut dire que là, il y a une forme de normalisation de ces idées et que ça va inciter à cette violence.
Vous dites que le phénomène s'est accéléré ces dernières années, même on peut dire en 2019, puisque 8605 crimes et délits ont été recensés en Allemagne au premier semestre 2019. On peut même parler de cet attentat qui a eu lieu le 2 juin, puisqu'à Kassel, un militant néo-nazi a assassiné devant son domicile un préfet. Walter Lübcke, membre du Parti conservateur, connu pour son soutien à la politique d'accueil des réfugiés suivie par Angela Merkel en 2015. Pourquoi, Nona Maier, l'Allemagne reste-t-elle aujourd'hui la plus touchée en Europe par l'activisme d'extrême droite malgré tout ?
Disons que d'une certaine manière, elle a été touchée plus tard. Alors que partout en Europe, c'est vers les années 90 qu'on voit se développer des droites extrêmes, des droites radicales populistes, comme on dit aujourd'hui, c'est relativement récent en Allemagne, même s'il y avait eu périodiquement des vagues de petits partis néo-nazis comme le NPD. Mais donc, ils rattrapent d'une certaine manière le temps perdu. Peut-être qu'on est à un moment où la mémoire commence à s'effacer, où il y a même quelquefois une réaction contre le conformisme, contre l'idée que nous sommes coupables. Donc tout ça joue en même temps. Il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé en 2015 avec l'arrivée des réfugiés, qui a été quelque part un déclic, un détonateur. Et puis on assiste quand même à la diffusion de ces discours de haine sur les réseaux sociaux. Donc tout cela fait un contexte, plus la présence de l'AfD qui normalise, qui banalise toutes ces droites extrêmes, populistes, qui ont des succès électoraux à travers l'Europe. Tout ça crée un contexte beaucoup plus favorable qu'avant pour ce genre de passage à l'acte.
Vous parlez de normalisation après les fusillades de mercredi soir. Plusieurs responsables politiques allemands n'ont pas hésité d'ailleurs à faire le lien entre la violence xénophobe de plus en plus prégnante dans le pays et le climat délétère entretenu par l'AfD. Par exemple, le social-démocrate Michael Roth, qui est secrétaire d'État aux affaires européennes, qui n'a pas hésité à dire l'AfD, le bras politique du terrorisme d'extrême droite. C'est très fort quand même.
C'est peut-être un peu fort. C'est compliqué l'AfD.
Il y a des liens avec les groupuscules.
Alors, c'est toujours très compliqué, c'est pas spécifique seulement à l'Allemagne, il y a toujours des liens complexes entre les droites parlementaires qui jouent le jeu des élections comme l'AfD et les droites plus dures, extra-parlementaires. Ils s'en servent souvent, les partis parlementaires, comme service d'ordre où ils recyclent parfois certains militants. Il y a au sein de l'AfD des gens très différents. Il y en a qui sont véritablement des néo-nazis que beaucoup de choses rapprochent d'une extrême droite dure. Mais au départ, c'était le parti des professeurs, donc c'est un peu complexe. On peut pas faire comme si c'était un bloc.
Est-ce que justement dans ces tueries, dans ces attentats qui se multiplient en Allemagne, on peut voir la marque d'individus isolés comme le dernier,
le fameux loup solitaire.
Exactement. Ou bien une organisation. Est-ce que c'est une sphère unie ou fragmentée, l'extrême droite allemande?
On dit généralement loup solitaire et c'est pas une bonne expression parce que au fond c'est beaucoup plus complexe. Oui, il y a des cas et ce n'est pas le cas dans la tuerie de Hanau où il y a des organisations. La police allemande vient de mettre à jour une organisation qui s'appelle Noyau Dur, où là, on a véritablement des plans prémédités, une organisation...
Très récent, c'est le 14 février, très des militants ont été arrêtés, une douzaine ont été arrêtés.
Là, c'est typiquement une organisation. Bon, mais il y en a d'autres qui passent à l'acte alors qu'ils sont tout seuls. Mais ils ne sont pas vraiment tout seuls, parce qu'ils se connectent avec d'autres qui pensent comme eux sur les réseaux sociaux. Donc, ils ne sont pas totalement solitaires. Aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, on peut voir ce qui se passe en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Norvège, y prendre des idées. Donc, ils ne sont pas seuls de ce point de vue-là. Et là, on a très souvent la rencontre entre, parfois, un certain déséquilibre mental, mais aussi qui penche dans un sens, celui de l'adhésion à ces idées qui circulent librement sur les réseaux sociaux et sur Internet.
Nona Maillère, qui pense comme eux, ils pensent comment?
Là,
c'est quoi ce qui les assemble?
La peur de l'autre, la peur des immigrés, des réfugiés,
une haine.
Les deux. La peur et la haine, la haine parce que la peur, des réfugiés, des immigrés et de l'islam. C'est exactement ce qui est en train de circuler à travers toute l'Europe, y compris la France. L'idée que nous sommes débordés, que l'invasion va nous submerger, la remigration. Toutes ces théories sont en train de circuler et de faire quelquefois passer à l'acte. Mais le passage à l'acte, c'est complexe. On sait toujours que c'est la rencontre entre des dispositions d'un individu et un contexte. Heureusement, tout le monde ne passe pas à l'acte. Et cette peur des réfugiés et des immigrés, elle déborde la sphère de l'extrême droite. On ne peut pas non plus tout mettre sur le dos de l'extrême droite. Mais heureusement, on peut avoir peur des réfugiés et des immigrés et ne pas passer à l'agression ou à la violence.
Donc, vous parlez de la circulation des idées, en particulier de l'importance des réseaux sociaux en la matière. Est-ce qu'il y a des liens au-delà des réseaux sociaux entre ces activistes violents d'extrême droite allemands et les autres mouvements en Europe? On en parle beaucoup en Grèce, on en parle beaucoup en Suède, en Grande-Bretagne aussi, peut-être dans certains pays de l'Est. Qu'est-ce qu'on sait?
Mais même en Italie, il y a de temps en temps des grands rassemblements néo-nazis. Donc là, on le voit de temps en temps défiler avec le bras levé. Donc ça existe de ce point de vue-là. Il y a une circulation d'idées, de littérature, de manifestes. Il y a quelques rencontres internationales, mais c'est relativement peu, mais il y en a un peu, si.
La figure de Björn Höck est peut-être intéressante à étudier puisque c'est le chef de file du parti en Thuringe, où en Thuringe on a vu l'alliance, là aussi historique, oui. Il y a eu un certain nombre de choses inédites quand même en Allemagne ces derniers temps, entre la CDU et l'AFD. Le mouvement est quand même placé sous la surveillance des renseignements allemands. Donc cette figure de Björn Höck, comment la qualifieriez-vous, Nona Maillère?
Il reflète toute l'ambiguïté de ces mouvements où à l'intérieur de l'AFD il y a des personnes qui sont respectées de la loi et de l'ordre, et d'autres qui sont véritablement, comme lui, des néo-nazis très radicaux. Et ce qui est intéressant, c'est le cas allemand, parce qu'on dit ils n'ont rien fait. Si, ils ont un office fédéral de protection de la Constitution qui fait très attention, qui surveille, qui depuis le lendemain de la guerre, va surveiller tous les extrémistes de gauche et de droite. Peut-être qu'ils n'ont pas assez fait attention assez tôt aux extrémistes de droite, mais en tout cas, il y a des efforts pour essayer de canaliser. Ils ont essayé, par exemple, à plusieurs reprises, d'interdire le NPD. Mais c'est toujours difficile.
Le NPD, c'est vraiment le parti ultra-nationaliste, le néo-nazi.
Et on ne peut vraiment pas comparer... On ne peut pas traiter l'AFD de parti néo-nazi. C'est pas vrai. C'est un parti de droite extrême. Il y a dedans des éléments néo-nazis, mais c'est un parti qui joue le jeu des élections, qui joue le jeu parlementaire. Mais ces idées, c'est les mêmes que l'on retrouve à travers toute l'Europe aujourd'hui, sans nécessairement commettre des actes de violence dans ces droites radicales populistes, comme on les appelle aujourd'hui. C'est la peur de l'immigré, la peur de l'étranger, la peur de l'autre.
Nona Maillère, vous dites qu'on les retrouve dans toute l'Europe. On les retrouve aussi au Parlement européen.
Exactement.
Ils sont 11 députés de l'AFD, 22 du Rassemblement national français, 28 députés italiens. Au sein donc de ce groupe qui, depuis mai 2019, s'est rebaptisé Identité et démocratie, qui regroupe 9 partis européens, 73 députés. C'est 10% quand même des 751 sièges du Parlement européen. Et aujourd'hui, c'est la cinquième fois force politique européenne. Quel lien, cette fois-ci, au sein même du Parlement, y a-t-il entre les uns et les autres? Est-ce qu'on le sait, ça?
Oui, parce que déjà, Marine Le Pen et Salvini, le leader de la Ligue, ont eu beaucoup de mal à faire ce rassemblement. Mais en tout cas, on peut dire qu'ils ont réussi à faire un rassemblement qui est deux fois plus important que celui qu'avait réussi à faire Jean-Marie Le Pen avant. Donc il y a une nette progression. Hein, 73, c'est beaucoup. Et en même temps, c'est très peu. Parce que autour de ces 10%, il y a un cordon sanitaire des autres partis qui fait qu'ils ne pourront pas peser sur le fonctionnement du Parlement européen. Ça leur donne une tribune, bien sûr. Mais ils ne pourront pas peser vraiment dans les commissions ou dans le jeu parlementaire. Donc ça, c'est important. Alors l'autre chose qu'il faut voir, c'est que cette famille des droites radicales populistes, elle est en plein essor, elle a fait des très beaux scores aux dernières élections européennes. C'est un bon moment, les élections européennes. On voit à travers toute l'Europe leur poids. Mais en même temps, ils n'arrivent pas à fédérer toute la famille. En fait, le rêve de ce groupe Identité et Démocratie, c'était d'avoir le soutien de Viktor Orban, le Hongrois à la tête de la Fidesz, des Polonais, du parti Brexit de Nigel Farage. Et ceux-là ne veulent rien avoir avec eux parce qu'ils considèrent que ce ne sont pas des partis respectables.
Vous avez dit tout à l'heure ce qui les assemblait, Nona Maillard. Qu'est-ce qui les distingue alors?
Ce qui les distingue, c'est qu'ils ont le sentiment, si vous discutez avec Nigel Farage ou avec Orban, bon, d'abord, ils ne sont pas d'accord sur le plan économique, mais ça, c'est un autre débat. Mais surtout, il y a l'idée que Marine Le Pen, c'est la fille de Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen, il est associé à l'antisémitisme, à ces phrases sur le point de détail jusqu'à nauséum. Même si sa fille n'est pas du tout sur cette ligne, il y a quand même l'idée, moi je ne serre pas la main à une Marine Le Pen.
Mais vous disiez quand même que tout à l'heure, il y avait peu de liens, on pouvait pas faire de liens étroits entre ces groupuscules allemands d'extrême droite qui mènent au terrorisme.
Non, ils sont pas au Parlement européen.
Non, justement. Et l'AFD. Malgré tout, l'AFD condamne assez mollement les actes de terrorisme qui ont lieu en Allemagne, et y compris les actes antisémites. Alors on peut d'un côté s'éloigner de la figure d'une Marie Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, représentant de l'antisémitisme en France, et en même temps être assez mou en la
Et l'AFD est dans le groupe de Identité et Démocratie. Ils l'ont rejoint, une partie de ses députés. Donc ça montre qu'ils ont franchi le passage. Et ça montre toute l'ambivalence des relations avec les droites dures qu'on utilise quand il faut. Si on prend le cas français, les identitaires, il y a des liens étroits avec le parti, le Rassemblement National de Marine Le Pen. Même si au début, elle s'en défendait, quelqu'un comme Philippe Vardon, il y a l'idée que ces gens-là peuvent nous aider parce qu'ils ont une expérience forte du militantisme, c'est des ressources, et puis ils s'en servent souvent comme service d'ordre. Donc les relations peuvent être très ambivalentes. Mais ce qui me frappe, c'est que quand même l'AFD a été la seule à ne pas s'unir au concert de réprobation qui a suivi la fusillade de Hanau. Et ils ont accusé tous les autres partis d'instrumentaliser ces morts dans la lutte contre l'extrême droite. Ça montre bien que quand même, ils sont en dehors, quelque part, du jeu parlementaire.
Nona Maillard, sur cette percée de l'extrême droite dans toute l'Europe, avec accession au Parlement européen, est-ce que vous partagez la remarque de votre collègue Jean-Yves Camus, spécialiste des droites radicales en Europe, selon laquelle cette percée constitue malgré tout un rempart au terrorisme? Il dit l'insertion de ces partis dans le cadre démocratique est plutôt un bouclier contre les aventures individuelles ou collectives vers le terrorisme.
Je pense qu'il faut nuancer, je pense qu'il n'a pas entièrement tort, que ça dépend des partis. Il y a eu des cas, je pense à la percée du Front National en France, il y a eu un moment où il a fédéré tous les petits groupuscules, toutes les droites extrêmes, radicales, royalistes, tous les mouvements, avec l'idée qu'ils allaient arriver au pouvoir. Et là, c'était un moyen de casser la spirale de la violence. Mais à partir du moment où le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National, n'arrive pas au pouvoir, alors les liens ont un petit peu tendance à se dissoudre. Donc ça peut, à certains moments, empêcher les groupuscules faire une unité des droites radicales et parlementaires, mais il y a d'autres moments où elles retrouvent leur liberté, quand elles ont le sentiment que ces droites, justement, jouent le jeu du système et ne sont plus véritablement dédiées à la défense de la cause jusqu'au bout.
On va en parler de la France après la chronique de Matteo Caranta. Si Matteo Caranta reste avec nous, parce que pour l'instant il a une quinte de tout, il est 8h31, pas possible maintenant, 8h31 sur France Culture, notre invité est Nona Maillard, politiste, directrice de recherche au CNRS, et nous parlons des extrêmes droites européennes.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
Culture de la peur, Nona Maillard.
Culture de la peur, mais de l'ordre culturel aussi. Donc c'est intéressant, c'est vraiment le nationalisme culturel. Donc ça me semble tout à fait intéressant. On n'a pas ça véritablement en France.
Non, mais on a ça en Europe, d'une certaine façon, la bataille culturelle avec Viktor Orban en Hongrie, qui s'est lancé dans une véritable réécriture de l'histoire et des manuels, des livres d'histoire,
expurgés.
Oui, là, ça va quand même beaucoup plus loin, mais expurgés de certains grands auteurs comme Imre Kertész, tout simplement. Là, on est vraiment dans l'extrême droite européenne à nouveau.
Là, on est dans la manipulation de l'histoire.
Donc, la bataille culturelle est importante.
Mais la bataille culturelle est très importante, et notamment si je prends le cas de la France, chaque fois qu'on a un maire Rassemblement National, le champ culturel pour eux est intéressant, parce que là ils peuvent faire des choses. Ils peuvent pas établir la préférence nationale puisque c'est contraire à la Constitution, mais ils peuvent décider que on veut des santons de Provence, qu'on veut sur les marchés des produits typiquement français, un art typiquement français. Donc cette idée que la sphère culturelle est un endroit dans lequel on peut agir, on la retrouve partout.
Est-ce que vous avez regardé de près précisément ce qu'ont fait les maires élus à l'époque du Front National, aujourd'hui du Rassemblement National depuis 2014, puisqu'on s'approche des élections municipales de 2020, qu'avant ils avaient fait pas mal d'erreurs, justement peut-être un peu trop grossières, et qu'ils en avaient payé les frais. Depuis 2014, que s'est-il passé dans certaines mairies du Rassemblement National ?
Ils ont décidé de faire profil bas. Ils ont décidé justement de ne pas refaire les erreurs. Il y a eu quelques tentatives. Je me souviens à Hayange, une statue a été repeinte en bleu, une statue moderne qui ne plaisait pas au maire. Mais bon, ce genre de choses ne se fait plus. Il y a l'idée de devenir un peu passe-muraille et de faire des choses efficaces pour le quotidien. C'est-à-dire donc, ça consiste à sucrer les crédits aux associations de défense des immigrés ou des associations de gauche, de refuser de leur prêter des salles, de faire une ville propre, de jouer sur la sécurité, donc de faire des choses qui ne sont pas, qui ne font pas trop parler d'eux. Ils ont véritablement cette idée. Et même, peut-être quelque part, de mettre l'étiquette Rassemblement National dans la poche. On voit là pour les municipales qui arrivent, c'est l'idée qu'on fait de la gestion municipale et on ne met pas en avant l'étiquette Rassemblement National. Donc, profil bas.
Puisqu'on parlait avec vous, Nona Maillère, et toute cette matinée politiste, directrice de recherche émérite au CNRS, et vous travaillez depuis très longtemps sur ces droites radicales, ces différents mouvements, à la fois justement les groupuscules d'un côté et les mouvements politiques qui émergent de l'autre, puisqu'on parle de cette combinaison ou de ces liens ambigus entre des partis politiques et des mouvements, qu'en est-il en France de ces liens ? Vous parliez de la désolidarisation d'une certaine façon, avec l'unanimité de la part de l'AFD dans la condamnation des attentats de mercredi soir. Si je prends juste une réaction en France, celle de Nicolas Bay, qui est vice-président du Rassemblement National et co-président du groupe Identité et Démocratie à Strasbourg, eh bien, au lendemain de l'attentat sur France Info, il a parlé de tension entre communautés. Il a plutôt éludé le lien entre la tuerie et l'extrême droite. Est-ce que c'est une stratégie que l'on retrouve et qui est commune, là, entre le Rassemblement National et l'AFD?
Il va beaucoup moins loin que l'AFD, qui a parlé carrément d'instrumentalisation. Mais donc, il continue sur la lancée idéologique du parti, qui est de dire que c'est un danger, qu'il y a trop d'immigrés, qu'il y a l'invasion, donc il continue sur sa ligne. Et puis, il ne peut pas totalement se désolidariser de l'AFD, puisqu'ils sont dans un groupe commun. Mais je dirais que c'est beaucoup plus tempéré que les propos de l'AFD.
Quels sont les liens au-delà de cette histoire? Quels sont les liens entre le Rassemblement National et l'AFD?
D'abord, ils sont dans cette organisation.
Outre le Parlement européen.
Il y a des affinités idéologiques. Il y a un chercheur qui s'appelle Cass Moude, qui a dit, au fond, avec toutes ces droites qui se développent en Europe, il ne faut plus les appeler extrême droite. Laissons le terme extrême droite aux droites non parlementaires, aux droites les plus radicales, ou alors aux droites qui ne jouent pas le jeu parlementaire comme Marion Maréchal, parce qu'elles jouent le combat culturel. Mais donc, il dit, prenons ces droites qui jouent le jeu des élections. Il les appelle les droites radicales populistes, et il dit au fond, elles ont des choses en commun. Chacune a une histoire différente. Chaque pays, en Italie, en Allemagne, en France, on a des histoires différentes. Elles ont en commun, un, d'être ce qu'il appelle nativiste, c'est-à-dire nationaliste. Vous parliez de America Great Again, mais là c'est français d'abord, autrichien d'abord, allemand d'abord. C'est la défense de nous et contre les autres. Le deuxième volet, c'est xénophobie, ethnocentrisme, c'est-à-dire le repli sur les miens. Et la troisième chose, c'est un positionnement anti-élite, anti-parti de gouvernement. Et ce sont les choses qui les rassemblent. Pour le reste, ils ont des points de vue très différents sur le plan de la morale, sur le plan de l'économie. Mais ces trois éléments les rassemble aujourd'hui. Et c'est ça qui fait cette famille diverse, hétérogène, des droites radicales populistes en Europe aujourd'hui.
Le Front National avait gagné 11 villes de 9000 habitants en 2014. Comment voyez-vous les élections du mois de mars venir de ce point de vue-là? Est-ce que, selon vous, vous n'êtes pas Madame Soleil, hein,
non,
je sais.
Non, pas de boule de cristal.
Mais en tous les cas, au vu de ce que vous regardez, au vu de ce que vous observez, Nona Maier, est-ce que pour vous, il y a une stagnation du Rassemblement National ou bien une montée comme il y a partout en Europe?
Non, il y a pas. D'abord, il y a des montées, mais ça dépend des élections. Ça monte et ça descend. Regardez même aux dernières élections européennes, Geert Wilders s'est trouvé. Il n'est plus représenté au Parlement parce qu'un autre parti est né à sa place. En Grèce, il y a une baisse de Hope Dorée. Donc ça monte et ça descend. Mais globalement,
donc, on en est où du Rassemblement National?
On est dans une dynamique. Et pour le Rassemblement National, je dirais pas du tout qu'il est en déclin. Il est en progression. Marine Le Pen a donné une dynamique électorale à ce parti, bien supérieure à celle que lui avait donnée son père. Depuis qu'elle arrive au pouvoir à la tête du parti en 2011, on voit dans toutes les élections une montée, et elle est quand même arrivée, malgré un débat raté entre les deux tours de l'élection présidentielle, à plus de 10 millions d'électeurs et 33% des suffrages exprimés. Donc on ne peut pas dire que c'est un parti en déclin. Et on peut dire que le contexte est extraordinairement porteur, parce qu'on est dans un contexte de crise de l'Europe, de crise de la représentation politique, de quasi-disparition de la scène électorale, même si ça n'est pas le cas au municipal, de la droite et de la gauche traditionnelle, et la peur des réfugiés, des immigrés, la peur de la mondialisation. Donc, pour des partis qui vivent sur l'idée que la mondialisation, il faut fermer les frontières, c'est une menace économique, culturelle, politique, eh bien, le contexte actuel, qui est anxiogène, est très bon pour eux. Et tout dépendra, en fait, le contexte est bon, tout dépendra de la capacité de leurs adversaires à leur faire face.
Et ils ont aussi, eux, tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'action violente sur le territoire français, peut-être justement avant ces élections, pour éviter qu'on fasse tout bien.
Ouais.
Puisque là, nous parlions du parti, parlons maintenant des groupuscules violents. Je disais tout à l'heure, la France, jusqu'à présent, a été relativement épargnée. D'abord, on dénombre, je crois, quelques 3000 militants activistes violents sur le territoire français. Ils sont plutôt 24 000 en Allemagne. Donc déjà,
ouais,
numériquement, c'est moins important. Mais il y a quand même des groupuscules démantelés d'extrême droite qui prévoyaient des actions violentes.
Plusieurs ont été démantelés.
Quelle est la situation aujourd'hui?
Mais aujourd'hui, je pense à un groupe comme Génération Identitaire qui fait beaucoup parler de lui, puisqu'ils ont fait des actions d'éclat. Ils ont ils sont arrivés avec des masques de cochon dans un quick halal. Ils ont bloqué les immigrés. Ils ont symboliquement bloqué le passage, la montagne entre la France et l'Italie. Ils ont affrété un bateau. Donc ils font des actions d'éclat pour faire connaître leurs idées. Et puis surtout, il y a eu quelque chose de beaucoup plus grave, qui sont, je pense, aux fusillades qu'il y a eu contre les mosquées, contre deux mosquées
à Bayonne à Brest.
Et à Brest. Et puis on vient de démanteler un groupe qui prévoyait des attentats. Donc ne nous réjouissons pas trop vite. Il y a aussi un potentiel en France, même si le nombre de militants est beaucoup moins nombreux qu'en Allemagne, où il y a ces vagues néo-nazis qui se sont succédées depuis la guerre.
C'est d'ailleurs ce que disait un rapport parlementaire de juin 2019, si je ne m'abuse, qui s'inquiétait d'une, là je les cite, tentation terroriste d'ultra-droite. L'attention pourtant ces dernières années a été plutôt focalisée sur le terrorisme islamiste, Nona Maier. Est-ce que comme en Allemagne, c'est ce qui commence à se dire en tout cas, on fait preuve un peu trop d'optimisme en la matière? Est-ce qu'on n'a pas assez regardé ou est-ce qu'on ne regarde pas assez ce qui se passe malgré ce rapport parlementaire?
Il y a plusieurs préfets ou fonctionnaires qui ont mis en garde depuis quelques années pour dire il faut regarder des deux côtés parce qu'il y a un danger des deux côtés. Donc, et à la fois pour les actes antisémites, on voit très clairement qu'il y a une double matrice. Quand on regarde la multiplication des profanations de cimetières, surtout dans l'Est de la France, là, le plus souvent, c'est des militants d'extrême droite, ou en tout cas qui se prétendent, qui font des graffitis et des tags néo-nazis. Et puis, il y a aussi cette espèce d'antisémitisme ordinaire. Mais il y a le djihadisme, qui est les attentats antisémites les plus meurtriers, sont liés à l'idéologie djihadiste de l'affaire Merah.
Sur 611 détenus en lien avec le terrorisme, selon les chiffres de l'administration pénitentiaire de 2018, 505 sont des islamistes, 28 sont des détenus d'ultra-droite et 5 des détenus d'ultra-gauche, ce qui donne effectivement une idée du rapport.
Oui, mais donc il faut faire attention des deux côtés, hein, parce que avec des cibles qui peuvent être tantôt les juifs, tantôt les musulmans, tantôt les deux.
Vous êtes inquiète aujourd'hui ?
Je pense qu'il faut être inquiet, oui. Je pense qu'il faut essayer de se battre. C'est difficile de se battre. Il y a à la fois la répression, mais il y a la bataille des idées, d'abord. Et calmer les peurs. Hein, parce que c'est pas très rationnel, c'est très souvent la peur qui fait que ces idées se répandent.
Et comment on peut calmer les peurs ?
Et calmer les peurs, peut-être, c'est pas seulement calmer les peurs. La peur vient souvent de l'ignorance. Donc le point de départ, c'est dès l'école, arriver à apprendre à vivre ensemble, ouvrir sur d'autres cultures, sur d'autres langues. C'est en fait, les attentats, c'est un déni d'humanité. Et donc il faut apprendre, développer le sentiment d'une commune humanité. Et c'est ça qui compte. Nous, on a travaillé beaucoup sur le racisme. Là, on a parlé des juifs, on a parlé des musulmans. Il y a un autre groupe qui est l'objet d'attaques et d'agressions terribles à travers toute l'Europe, et notamment en Hongrie, c'est les Roms. Et là, on a fait des entretiens dans lesquels on entendait des propos que je n'ai entendus à propos d'aucun autre groupe, dans lesquels on les traitait comme des animaux. Donc, c'est là que tout commence. À partir du moment où on ne concède plus à l'autre sa qualité d'être humain, alors tout est possible. Donc c'est véritablement là qu'il faut agir et ça commence très tôt, à l'école.